Voici donc le plan de cet exposé. Introduction, l'opinion générale sur l'inquisition. Partir donc des idées qui courent sur le sujet. Ensuite, pour bien comprendre l'inquisition, rappeler très rapidement quel était le climat général de l'Europe au temps où celle-ci était active, c'est-à-dire au XIIIe, du XIIIe au XVIIIe siècle, en gros. Et ensuite, alors, les deux parties importantes, l'inquisition ecclésiastique, l'ancienne inquisition ecclésiastique qui a fonctionné grosso modo entre 1231 et le XVIIIe siècle, et puis la nouvelle inquisition d'Espagne qui a fonctionné grosso modo entre 1480 et 1812. C'est deux phénomènes parallèles mais qui sont assez distincts l'un de l'autre. Et puis la conclusion. Je reviens sur ce que disait M. Trochu. Existe-t-il des crimes de pensée et de propagande? Ces crimes sont-ils punissables par la loi? C'est une question très actuelle qu'on pourrait illustrer par des quantités d'exemples. La notion de crime de pensée a complètement disparu. Alors que le péché de pensée, il n'y a qu'à lire le Confiteor, par pensée, par action, par omission, le péché de pensée, le premier des péchés qui figure dans le Confiteor. On peut illustrer cette totale disparition des péchés de pensée dans notre société par le fait que les gens qui pensent mal et qui entraînent les autres à poser des actes mauvais ne sont pas punis, alors que l'acte mauvais peut être puni. Un exemple qui m'avait frappé il y a une dizaine d'années, mais on pourrait trouver des dizaines d'exemples semblables, c'est ce qui s'est passé à Noisy-le-Grand, dans la région parisienne, il y a une dizaine d'années. À l'époque, il y avait un disque de la firme NTM qui s'intitulait « Qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu ?» C'est leur terme exact. Et des jeunes se sont débrouillés pour appliquer ce qui était dit dans ce disque et mettre le feu à un gymnase, une école maternelle et à un groupe scolaire. Ces incendies sont intervenus en juin 1995, alors que depuis 2 mois était diffusé ce fameux disque « Qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu ?» Eh bien, dans le climat actuel de liberté de pensée, l'incendie criminel a été puni, les jeunes ont été plus ou moins condamnés, mais l'incitation à mettre le feu, la boîte Sony ou d'autres boîtes qui ont diffusé le disque, elles ont pu continuer à faire leur travail, elles n'ont absolument pas été punies. Tout se passe comme si la notion même de crime de pensée avait disparu. Est-ce une bonne chose? C'est un point qu'on aborde forcément en traitant la question de l'inquisition. L'autre aspect, est-il légitime et efficace de défendre la vérité religieuse par la force de l'État? La réponse était oui au temps de l'Inquisition. Aujourd'hui, l'avis contraire prévaut. On admet que la vérité se défend par sa séduction propre et n'a pas besoin de l'appui d'un bras séculier, d'une force. Vous avez un ou deux textes conciliaires Vatican II qui, là-dessus, sont assez illustratifs. Cette opinion très généralement admise, spécialement en milieu religieux, semble contredire l'attitude des catholiques qui, par dizaines de millions, perdent la foi pour tomber dans l'indifférence religieuse ou pour se rattacher à des sectes au Nouvel Âge, spécialement en Amérique latine. Pour quelle raison? Simplement parce que la foi catholique n'est pas protégée par la force de l'État. Et à ce moment-là, comme nous avons tous une certaine propension à glisser dans l'erreur du fait du péché originel, eh bien les gens tombent dans l'erreur, le peuple fidèle tombe dans l'erreur quand il n'est pas protégé contre la propagande des sectes. Encore une deuxième question que soulève l'affaire d'Inquisition. Il y a un autre motif intéressant. Peut-on gouverner une société sans un service de renseignement? Sans renseignement. C'est un point sur lequel Jean Houssay, qui j'ai beaucoup travaillé, insistait beaucoup. Il est impossible de gouverner une société, quelle qu'elle soit, que ce soit une famille, une entreprise, une école, un État, un ministère, sans avoir un minimum de renseignement sur les hommes et les choses. Et s'il faut un service de renseignement, comment le concevoir à l'époque de l'Église? Et on verra que l'Inquisition, justement, c'était un service de renseignement remarquablement organisé et qui fait cruellement défaut à l'Église aujourd'hui parce qu'elle n'a absolument pas l'équivalent en l'an 2005 de ce qu'était l'Inquisition dans les années 1500. Donc c'est un sujet qui est très actuel. Quels sont les jugements qu'on porte sur ce... Quels sont les jugements qu'on porte sur l'Inquisition? En général, ils sont très négatifs. 1.1. Non, c'est pas sûr. Vous avez la formule de Voltaire. Parlant de l'Inquisition, je cite, « Ce sanglant tribunal, ce monument affreux du pouvoir monacal que l'Espagne a reçu mais qu'elle-même abhorre, qui venge les autels, mais qui les déshonore, qui, tout couvert de sang, de flammes entourées, égorge les mortels avec un fer sacré. C'est du Voltaire typique. Mais vous retrouvez les mêmes idées aujourd'hui. J'ai mis au tableau un texte tiré d'une publication catholique moderniste, comme il y en a des quantités, qui s'appelle « Source de vie ». Voilà ce que disait l'auteur, qui était un religieux. Il ne faut pas oublier l'Inquisition. Si les bûchers furent moins nombreux qu'une certaine littérature le laisse croire, un seul d'entre eux suffit cependant à démontrer que ces réactions suprêmement intolérantes et punitives n'avaient rien de chrétien. Autrement dit, punir d'une peine de mort quelqu'un qui diffuse partout l'erreur, l'hérésie, et qui contribue comme ça à la perte d'un nombre considérable d'âmes, c'est une chose qui n'est pas chrétienne, dit ce brave religieux. Et on se rend compte que tout de suite, ces jugements extrêmement négatifs sur l'Inquisition se heurtent à un premier argument qui, je crois, peut être le plus puissant de tous. C'est que l'Église a canonisé des inquisiteurs, dont plusieurs sont morts dans l'exercice de leurs fonctions. Si donc l'Inquisition n'avait rien de chrétien, comment aurait-on pu canoniser les inquisiteurs? Voici la liste des principaux d'entre eux. Le bienheureux Guillaume Arnaud et ses 9 compagnons assassinés à Avignon dans l'exercice de leur fonction en 1242. Saint-Pierre de Vérone, qu'on a appelé Saint-Pierre martyr, qui a eu une réputation extraordinaire en Italie, puisque le jour de sa fête, pendant plusieurs siècles, a été chômé. Saint-Pierre martyr, donc, dominicain, assassiné dans l'exercice de ses fonctions d'inquisiteur dans le Milanais en 1252. Saint-Jean de Capistran, franciscain, celui qui a gagné en 1456 la bataille de Belgrade contre les musulmans, et qui était inquisiteur pour toute la chrétienté, qui est mort en 1456. Vous avez Saint-Pierre Arbues, chanoine régulier, inquisiteur pour l'Aragon, assassiné dans l'exercice de ses fonctions en 1486 et canonisé par le pape Pie IX en 1867. Enfin, Saint-Pie V, qui est quand même bien connu. Et Saint-Pie V a été inquisiteur dans le duché de Milan et inquisiteur à Rome avant d'être élu pape. Et une fois qu'il a été pape, il a demandé au roi Philippe II, qui, sous le contrôle duquel était le Milanais, d'instaurer l'inquisition espagnole dans le Milanais parce qu'il la considérait comme plus efficace que l'inquisition ecclésiastique. Mort en 1572. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 et 9, ça fait 14 saints, si vous voulez, qui étaient inquisiteurs, qui ont été canonisés par l'Église. Donc il y a là un argument puissant pour dire l'Inquisition, c'est autre chose que ce que disait Voltaire, dans la citation de Voltaire, et qui était là précédemment. Ce sanglant tribunal, ce monument affreux du pouvoir monacal, disait Voltaire. Pour comprendre l'Inquisition, il faut, à ce moment-là, il faut se remettre un petit peu dans l'état d'esprit de ces siècles où elle a été efficace. En Europe, en dehors de l'Espagne, ça a été surtout entre les années 1230 et pratiquement 1500 à peu près. Et en Espagne, ça a été surtout à partir de 1480. L'Inquisition d'Espagne a été supprimée par les Cortés en 1812, mais elle a été surtout active au XVIe siècle et au début du XVIIe. L'époque vivait à l'époque en climat de chrétienté. Qu'est-ce que la chrétienté? J'ai repris la définition qu'on donne Don Gérard dans son très beau livre, malheureusement épuisé, Demain la chrétienté. Qu'est-ce que la chrétienté? Non seulement l'ensemble des peuples où prédomine le christianisme, comme l'indique le dictionnaire, mais un tissu social où la religion pénètre jusque dans les derniers replis de la vie temporelle, les mœurs, dans les usages, dans les jeux, dans les travaux. Autrement dit, une civilisation où le temporel est sans cesse irrigué par l'éternel. Autre texte de Don Gérard, le sacré pénétrant jusqu'aux racines, le profane. L'homme inséré dans une communauté où tout lui parlait de son origine divine, tout lui parlait de sa fin éternelle. Le soldat transfiguré en chevalier et en croisé, le prince loin du Seigneur et porte-glaive de Dieu, la force au service de la lumière, en deux mots, une cité des hommes où frémit l'ébauche de la cité de Dieu. Ça encore, c'est un texte de Don Gérard dans son très beau livre. Dans ces conditions, on comprend très bien que la foi soit le premier des biens d'un pays à protéger. Et c'est normalement l'État, une des premières préoccupations de l'État, c'était de protéger de soutenir, d'aider la foi du peuple fidèle et de la défendre contre les sectes, contre tous ceux qui voulaient corrompre ou détruire cette foi. C'était vraiment une tâche politique fondamentale de l'État. Comment était conçue cette... Poursuivons cette histoire sur cet exposé sur l'échelle de valeurs dans la société chrétienne du XIIIe au XVIIIe siècle. Elle correspond à ce que disait le cardinal Pie. On ne changera pas l'essence des choses. Jésus-Christ est la pierre angulaire de tout l'ordre social. Lui, en moins, tout s'ébranle, tout se divise et tout périt. Jésus-Christ est considéré comme la pierre angulaire de l'ordre social. Donc la foi en Jésus-Christ est quelque chose de fondamental. Et on peut dire que dans l'échelle de valeurs de cette société, la foi était au sommet. Et en effet, la foi apportait simultanément un bien spirituel et un bien temporel. Un bien spirituel indispensable au salut éternel, un bien politique qui était l'unité du peuple. Donc l'État avait double intérêt et double vocation à défendre la foi contre ceux qui voulaient la pervertir, d'une part pour contribuer au salut éternel de ses sujets, et d'autre part pour conserver l'unité du peuple, qui est un point également absolument fondamental. Que font les hérétiques? Ils font perdre la foi au peuple fidèle. Ils s'attaquent le plus souvent à l'ordre naturel, au mariage, à la propriété. Pensez aux théories sur le mariage des cathares, par exemple. Ils troublent l'ordre de la nation chrétienne et ils détruisent son unité. Et de ce fait, le droit public des nations chrétiennes avait décrété des poursuites contre ses ennemis de la foi. Et c'était une chose qui était parfaitement admise et qui a toujours figuré dans le droit public catholique. Et qu'est-ce que sont venues faire les deux institutions qu'on appelle inquisitions? Les deux inquisitions ont été des institutions judiciaires permettant à l'Église et à l'État de mieux assurer cette charge, de défendre le peuple fidèle contre la perversion de la foi par des hérétiques, par des musulmans, par des juifs, par tout ce que vous voudrez. Et dans ces siècles-là, on trouvait ça parfaitement normal, et c'était objectivement parfaitement normal. Parce que l'échelle des valeurs était correcte, et dans l'échelle des valeurs des sociétés chrétiennes de l'époque, la foi était au sommet. Comme la foi était le bien principal, c'était la première charge de l'État et de l'Église, c'était de sauvegarder la foi et de permettre au peuple fidèle de ne pas être totalement corrompu, de perdre la foi. Voilà ce que disait là-dessus Don Guéranger. Dans les âges chrétiens, on eût regardé comme coupable, autant qu'absurde, de garantir à l'erreur la liberté qui n'est due qu'à la vérité. Et les pouvoirs publics se considéraient comme investis du devoir de veiller au salut des faibles, en écartant d'eux les occasions de chute, comme le père de famille prend soin d'éloigner de ses enfants les périls qui leur seraient d'autant plus funestes que leur inexpérience ne les soupçonne pas. Avant d'attaquer la question ecclésiastique, je dis deux mots sur les livres qu'on a sur le sujet. Il n'y a malheureusement pas beaucoup d'études. Dans la petite brochure « Connaissance élémentaire d'inquisition » que j'ai apportée, qui contient en gros le texte de mon exposé, j'ai noté quatre documents importants. Michel Ferretti a fait une petite brochure très très bonne, intitulée « L'Église et ses inquisitions », éditée par le groupe Saint-Rémy, 75 pages. Henri Hello, qui est un théologien du frère de Saint-Paul, a fait en 1922 un petit livre assez bon également qui s'appelle « La vérité sur l'inquisition ». J'ai oublié de l'apporter, nous l'avons réédité à l'AFS. Là encore, c'est quelque chose d'assez court, c'est une 70 pages. Vous trouvez sur Internet, sans difficulté, un texte de Joseph de Maistre qui est assez intéressant, intitulé « Lettre d'un gentilhomme espagnol sur l'inquisition ». Le MJCF a fait une petite étude Croisade d'inquisition, faut-il demander pardon, dans lequel il y a deux courts articles, l'un sur l'inquisition ecclésiastique, l'autre sur l'inquisition espagnole. Enfin, le livre de très loin le plus complet sur le sujet, le plus remarquable, malheureusement, il n'existe qu'en anglais, c'est le livre du grand historien américain William Thomas Walsh, rédigé en 1940, et c'est vraiment un livre, à mon avis, absolument sensationnel sur l'inquisition, mais il n'existe qu'en langue anglaise ou en traduction espagnole. Enfin, si vous lisez l'anglais et l'espagnol, procurez-vous ce livre. Vous avez vraiment sur l'Inquisition quelque chose de. Une étude en profondeur très remarquable. Voilà les sources qu'on peut avoir à l'heure actuelle. Abordons l'Inquisition. La première Inquisition, l'ancienne Inquisition ecclésiastique. On l'appelle ecclésiastique pour la distinguer de l'Inquisition d'Espagne, qui a été créée 250 ans plus tard. C'était donc un organisme judiciaire permanent, dépendant directement du Saint-Siège et ayant pour but, pour fonction, de lutter contre les hérésies. Quels sont les éléments qui ont permis, qui ont conduit l'Église à fonder cette institution? Normalement, c'est l'évêque qui a la charge de lutter contre l'hérésie, puisqu'il porte la responsabilité de sauvegarder la foi et les mœurs dans son diocèse. Pourquoi donc le pape Grégoire IX, qui a été pape de 1227 à 1241, a-t-il jugé utile de superposer à l'organisation diocésaine existante un nouveau pouvoir judiciaire prenant en charge une partie du travail de l'évêque? C'est parce qu'il avait affaire, principalement en Italie du Nord et dans le Midi de la France, à une recrudescence d'anciennes hérésies qui bénéficiaient non seulement de l'appui des chefs politiques de ces lieux, mais en même temps qui bénéficiaient très souvent de l'appui des chefs religieux d'une partie du clergé et d'une partie des évêques. L'hérésie la plus connue à l'époque, c'était l'hérésie cathare, qu'on appelle aussi les albigeois. Originaire d'Orient, cette hérésie des cathares était une sorte de manichéisme, croyance en l'existence d'un bien du Dieu, d'un Dieu du bien, et d'un dieu du mal qui se lutte l'un contre l'autre à puissance égale. Le monde corporel était rattaché au dieu du mal, il en résultait que la procréation des enfants, le mariage étaient considérés comme des abominations, et un autre aspect de cette théorie, le suicide de volonté rappelé Endura, et également la division tout à fait fréquente dans les sectes entre les parfaits et les croyants. On retrouve dans l'hérésie cathare les éléments fondamentaux de la gnose dont il était question à l'exposé fait à l'Envalet samedi dernier. Je ne reviens pas sur ce détail. Voici quelques éléments de date et qui montrent comment a été mise en place cette institution, inquisition ecclésiastique. Vous avez eu en 1208 l'assassinat à Saint-Gilles dans le Gard du légat du pape Pierre de Castelnau. Le pape a demandé alors de faire une croisade, qui a été la fameuse croisade des Albigeois, avec le père de Louis VII qui a joué un rôle important dans cette croisade. Avec Simon. Je fais un aparté sur Don Guéranger. Vous trouvez dans la vie des saints, les inquisiteurs qui ont été canonisés dans l'année liturgique de Don Guéranger, vous avez des éléments très très précieux parce que c'était un esprit extrêmement clair et vous avez une justification d'inquisition dans la vie de Saint Jean des Capistrans, 28 mars si je ne me trompe pas, ou 23 mars, dans la vie également de Saint Pie V. Et donc Guéranger là-dessus avait une vue extrêmement précise. Donc il faut reconnaître que la protection de la foi était considérée comme beaucoup plus importante à cette époque-là que la protection des biens temporels. Les deux inquisitions sont donc des institutions judiciaires qui ont permis à l'Église et à l'État, chrétiens agissant de concert, d'assurer cette charge, de protéger la foi contre les hérésies. La première a été créée par le pape Grégoire IX en 1229, et a été en existence jusqu'au XVIIIe siècle, elle s'étendait à toute la chrétienté. C'est une institution universelle. La deuxième a été autorisée plus exactement l'Inquisition espagnole par le pape Sixte IV en 1478 à la demande de la grande reine Isabelle la Catholique. Et elle n'a été mise en fonction qu'à partir de 4 ans plus tard, à partir de 1482. Son champ d'action était l'Espagne et les territoires sous contrôle espagnol, c'est-à-dire toute l'Amérique latine et une partie de l'Italie. Et elle a été active de 1480 à partir de 1482 et a été dissoute par les Cortés en 1812. Nous allons donc parler successivement de l'acquisition ecclésiastique et de l'acquisition d'Espagne, qui sont deux phénomènes historiques très semblables l'un à l'autre, mais qu'il vaut mieux distinguer, qu'il vaut mieux traiter séparément. Mont de Montfort. 1215, il y a eu le Concile de Latran. 1229-1231, l'organisation de l'acquisition par Grégoire IX, et elle est confiée aux dominicains et aux franciscains. Quel était le but poursuivi? Elle avait principalement pour but de la protection de la foi du peuple fidèle, en faisant cesser la propagande de l'hérésie, l'amendement des coupables, en essayant de ramener les hérétiques à la foi et à la pénitence, et la punition de ceux qui s'obstinaient dans l'hérésie et de ceux qui retombaient les relapses après l'avoir abjuré. L'institution de l'Inquisition reposait sur le personnel choisi par le pape, qui sont des juges délégués de la papauté. Dans la circonscription territoriale dont ils ont la responsabilité, dont ils ont la surveillance, ce personnel exerçait une juridiction indépendante de celle de l'évêque et que limitait seule l'autorité du pape. En fait, l'entente entre le juge ordinaire, l'évêque, et le juge extraordinaire, l'inquisiteur, en général, il n'y a pas eu de grosses difficultés sur ce plan de cette double responsabilité. Mais le génie du pape a été de confier cette charge d'inquisiteur à des gens qui étaient parfaitement faits pour ça, parce qu'ils étaient, étant religieux, ayant fait le vœu de pauvreté, ils étaient moins susceptibles que les clergés séculiers d'être touchés par des motifs d'argent, et en même temps, étant religieux, ils avaient pu avoir une formation assez fouillée. En prenant des ordres mendiants, principalement dominicains et franciscains, on avait des hommes qui étaient indépendants des autorités locales, ecclésiastiques ou civiles, qui étaient souvent acquises à l'hérésie, plus facilement intègres et peu susceptibles de céder aux pressions à cause du vœu de pauvreté, savants et spécialement entraînés. Donc si l'Inquisition a, dès le début, joué un rôle très important et très efficace, c'est par ce choix d'un personnel spécialement qualifié, dominicain et franciscain, qui a été certainement un très très bon choix. Cet inquisiteur qui apparaît donc au XIIIe siècle, son titre complet c'est inquisiteur de la perversité hérétique, il se distingue donc de l'évêque, qui est enquêteur et juge ordinaire en matière de foi, parce que c'est un juge délégué du Saint-Siège pour les causes d'hérésie. Et, point très important, l'inquisiteur poursuit l'hérétique, non pas pour ses convictions internes, il ne s'occupe pas du fort interne, il s'occupe du fort externe, il poursuit l'hérétique pour ses actes extérieurs. Autrement dit, quand quelqu'un fait de la propagande hérétique en public, c'est un acte extérieur pour lequel l'Inquisition peut intervenir. Si l'hérétique a simplement des convictions et ne s'occupe de son hérésie dans le sein de sa famille, l'inquisiteur n'intervient pas puisqu'il s'agit à ce moment-là du fort interne. Donc le crime d'hérésie était réservé aux inquisiteurs et l'Église admettait que les tribunaux civils n'étaient pas compétents dans ce domaine. Quelle était la procédure? Les tribunaux d'inquisition ont introduit pas mal de nouveautés dans la procédure judiciaire et ils ont fait faire à la justice un progrès considérable. La preuve par le témoignage se substituait à la preuve par le feu. Une enquête secrète remplaçait les enquêtes publiques, parce qu'on s'est rendu compte, on se rendait compte, c'est une question de bon sens, c'est que si le témoin n'était pas secret, si on révélait le nom du témoin, il se faisait liquider purement et simplement et les témoignages disparaissaient. Il fallait donc que les témoignages soient secrets et qu'on ne révèle pas en public les noms de ceux qui avaient apporté les témoignages. Donc enquête secrète au lieu d'une enquête publique et institution d'un jury constitué de personnalités compétentes et de bonne réputation. Donc je répète, la preuve par le témoignage remplaçant les ordalies propres au Moyen-Âge, l'enquête secrète au lieu d'une enquête publique et surtout l'institution du jury permettant d'être d'avoir des gens parfaitement honorables et compétents et pas du tout excités. Quelles étaient les peines engagées? Il y avait toute une échelle de peines. Ce n'était que dans les cas les plus exceptionnels que l'inquisiteur remettait la personne jugée au ce qu'on appelle le bras séculier, c'est-à-dire à l'État, qui en général le condamnait à mort. Mais dans les cas, la plupart des cas, il y avait toute une gradation de peines allant de la prison au pèlerinage, au jeûne, l'obligation de porter certains habits spéciaux ou l'obligation de faire certaines prières. Il faut reconnaître que le pourcentage de gens qui ont été condamnés à mort par l'Inquisition par rapport au cas examiné était extrêmement faible. La prison préventive n'existe pas au tribunal d'Inquisition. Et avec une procédure judiciaire en avance sur son temps, mise en œuvre par un personnel très compétent, l'Église a servi la justice en évitant en particulier les jugements populaires contre les hérétiques qui entraînent forcément des quantités d'excès. Et surtout, son objectif premier était non pas de punir le coupable, mais d'abord d'obtenir sa correction, sa conversion. Voilà ce que disait Henri Hénault sur ce sujet. De ses débuts à sa conclusion, la procédure du tribunal de l'Inquisition montre un parti pris non de sévérité implacable, comme on a voulu le dire, mais de miséricorde et d'équité. Avant tout, l'inquisiteur veut procurer l'amendement du coupable. Et qu'est-ce qui a été fait dans le cas de... Quelques chiffres sur les morts. Là, les statistiques sont... C'est celui-là, nous avançons. Non, c'est celui-là. Vous l'aviez là, c'est celui-là, je crois. On a pas mal de documentation sur l'Inquisition, spécialement des registres sur l'Inquisition dans le midi de la France. On peut lire dans ces registres les enquêtes, les interrogatoires, les sentences qui ont marqué les procès pour fait d'hérésie. Ils prouvent que les condamnations capitales ont été rares. Pour prendre un exemple, sur 9 sessions... tenu par le tribunal de Pamiers entre 1318 et 1324, portant condamnation de 64 personnes, 5 seulement ont été livrées au bras séculier, c'est une moyenne donc de 1 par an. Si le tribunal révolutionnaire n'avait fait que 2 victimes, l'une en 1793 et l'autre en 1794, il est évident qu'on n'en parlerait pas aujourd'hui. Comment c'est, pour prendre un exemple alors plus complet, et comment s'est comportée l'Inquisition dans la lutte contre la secte des Albigeois? Quatre efforts, cette hérésie terrible qui a marqué complètement le sud de la France, autour de Toulouse, en particulier Toulouse-Albi, cette hérétique a ravagé le midi de la France au XIIe et XIIIe siècle. Et, je le disais tout à l'heure, elle bénéficiait de l'appui des princes locaux et des évêques, et de beaucoup d'évêques. Il y a quatre efforts qui ont été menés en parallèle pour en venir à bout, et on s'aperçoit que c'est grâce à ces quatre efforts conjugués que l'hérésie a été complètement éliminée. L'Église a commencé par la prédication, à partir de 1203, mission et prédication, avec des personnalités comme Pierre de Castelnau, qui a été assassiné par les hérétiques, et saint Dominique, qui a commencé là sa mission. Le pape, ensuite, oblige les catholiques à faire une croisade, la croisade des Albigeois, action militaire, qui a commencé en 1209, croisade faite à l'appel d'Innocent III, et qui l'action militaire pratiquement se termine en 1244 par la prise de Montségur, qui était le dernier fief important des cathares dans les Pyrénées. À partir de 1229, il y a eu une action principalement politique par Blanche de Castille et Saint-Louis, qui ont remplacé les comtes de Toulouse. Et à partir de 1230, la consolidation des opérations qui avaient été menées sur le plan prédication militaire et politique, la consolidation a été faite par l'intervention de l'Inquisition qui a été efficace dans le milieu de la France à partir de 1230. Et il a fallu ces quatre moyens, la mission et la prédication, l'action militaire, l'action politique et le tribunal de l'Inquisition pour venir à bout d'une hérésie puissamment implantée dans le pays et extrêmement difficile à éliminer. Là, il y a eu un succès complet. Quels sont les saints qui ont joué un rôle important dans cette inquisition ecclésiastique? J'en cite quelques-uns, du moins ceux qui ont été canonisés. Saint Pierre Martyr, mort en 1252, j'en parlais tout à l'heure, inquisiteur en Italie, et mort assassiné dans l'exercice de sa fonction, et donc extrêmement populaire en Italie. Saint Jean de Capistrin, qui a été inquisiteur pour toute la chrétienté, et qui est mort en 1456, et c'est lui qui a réglementé, remis de l'ordre dans certaines procédures de l'inquisition dans le milieu du XVe siècle. Saint Pie V, qui a joué un rôle important au XVIe siècle, puisqu'il est mort en 1572, et qui a été inquisiteur lui-même dans le duché de Milan, et qui a donc vu de très près le fonctionnement de l'inquisition, soit espagnole, soit ecclésiastique. Je ne cite là que ceux qui ont été canonisés dans le cadre de l'inquisition ecclésiastique. Il y en a d'autres qui ont été canonisés dans le cadre de l'inquisition espagnole. Je précise que Saint Pie V a été nommé en 1551 commissaire général du Saint-Office, titre qu'avait pris à l'époque l'Inquisition, et en 1558, il a été grand inquisiteur pour Rome et le monde entier. Il a donc connu de très près ce qu'était l'Inquisition. On peut résumer ce qui vient d'être dit par les points suivants. L'hérésie met en péril la foi du peuple chrétien. La foi du peuple fidèle, elle met en péril l'ordre social et moral de la nation chrétienne et son unité. La lutte contre l'hérésie a commencé par des prédications, des sanctions d'ordre spirituel. Le péril se précisant, les sanctions d'ordre spirituel étant insuffisantes, l'Église a créé donc en 1229 cet organisme spécial, l'Inquisition ecclésiastique, qui a fonctionné donc du XIIIe au XVIIe siècle en gros, et qui a eu forcément, comme toute institution humaine, il y a eu des défauts, des erreurs, des accidents de parcours. Vous vous rappelez que Jeanne d'Arc a été condamnée par le tribunal de l'Inquisition, condamnation absolument inique, mais je pense que quand on voit l'ensemble du travail qu'a fait l'Inquisition ecclésiastique, le cas de Jeanne d'Arc est plutôt un cas exceptionnel qui d'ailleurs a été rectifié par l'Église assez rapidement. On peut conclure en disant ceci. Dans ce travail d'inquisition, de recherche, le pouvoir civil et le pouvoir religieux se prêtait secours pour la défense de la société. Et c'est justement l'accord entre l'Église et l'État qui rendait efficace cette institution. Et on verra tout à l'heure que si l'inquisition espagnole a été plus efficace en général que l'inquisition ecclésiastique, c'est parce que l'accord entre l'Église et l'État était beaucoup plus marqué dans le cadre de l'institution, l'inquisition espagnole, que dans le cadre de l'inquisition ecclésiastique. Donc le pouvoir civil et le pouvoir religieux se prêtaient secours pour la défense de la société. Les procédés influencés par le droit pénal du temps nous paraissent très durs, mais codifiés et contrôlés, l'Inquisition n'était pas plus dure que bien des tribunaux contemporains, et même beaucoup moins. Les inquisiteurs, sauf exception, qui ont été très durement réprimés par Rome, les inquisiteurs offrent de très sérieuses garanties morales et intellectuelles, et ont très souvent atténué les peines infligées au départ, et on peut dire que l'Inquisition a certainement sauvé pour un temps la chrétienté de l'anarchie aussi bien doctrinale que sociale, et spécialement à l'égard de cette terrible hérésie des cathares qui avait envahi, je le répète, tout le sud de la France et tout le nord de l'Italie. Venons-en à l'Inquisition espagnole. Là encore, il faut comprendre la situation de l'Espagne. Dans les années, elle a été donc créée, autorisée par le pape en 1478 et mise en place à partir de 1480-1482. Pour comprendre la nécessité, l'intérêt de cette nouvelle inquisition, il faut connaître la situation de l'Espagne dans ces années 1450 à 1500. L'Espagne était soumise dans les années 1470-1480 à deux périls fondamentaux, l'un d'origine musulmane, l'autre d'origine juive. Le plus important, le péril le plus grave, étaient les juifs. À cette époque, la conquête de l'Espagne sur les musulmans n'était pas terminée, puisque la prise de Grenade n'a eu lieu qu'en 1492. Donc les rois catholiques, Isabelle la catholique et Ferdinand, elle reine de Castille et lui roi d'Aragon, avaient lutté contre les musulmans qui étaient encore présents sur le territoire, mais ils avaient surtout à lutter contre les faux convertis juifs, qu'on appelle les maranes, conversos quelquefois. Il y avait une population juive très importante en Espagne à l'époque, très bien organisée, dont beaucoup s'étaient convertis en apparence, tout en gardant leurs idées judaïques, et qui avaient pris des places importantes, aussi bien dans le personnel d'État, comme fonctionnaires, comme ministres, que dans le personnel religieux. Beaucoup de faux convertis juifs, beaucoup de maranes étaient éventuellement prêtres ou évêques. Et ces gens-là n'avaient qu'une idée, c'était de mettre la main sur l'Espagne et de réduire la population catholique d'Espagne, la traiter comme les Israéliens d'aujourd'hui traitent les populations musulmanes et catholiques de Palestine. Ils étaient constamment en train de comploter contre l'État espagnol. Un peu plus tard, le autre danger pour l'Espagne, la pénétration protestante, qui a eu lieu à partir des années 1555 à peu près, et qui a failli réussir, et qui était évidemment une menace considérable pour le pays. Précisons un peu la nature de ces deux périls. En 1480, les musulmans occupent toute une partie sud de l'Espagne. La guerre de reconquête menée depuis des siècles, depuis sept siècles, ne s'achèvera que 12 ans plus tard, en 1492, par la prise de Grenade. Hors d'Espagne, la puissance musulmane est en pleine expansion depuis que les Turcs ont pris Constantinople en 1453. Ils ont attaqué l'Europe par le sud. Ils ont été bloqués par le grand inquisiteur Saint-Jean de Capistran à Belgrade en 1456. Mais en 1480, ils s'emparent de 30 villes du royaume de Naples et ils massacrent la moitié de la population de la ville qui faisait à peu près 20 000 habitants à l'époque. Plusieurs des victimes de 30, d'ailleurs, ont été canonisées. Péril des musulmans, péril des juifs, des faux convertis, des maranes. Ces faux convertis sont à peu près, mettons, de quelque chose comme 2 millions. Ils sont tout puissants par leur richesse, et parce qu'ils détiennent une bonne partie des leviers de commande dans l'Église et dans l'État. Ils constituent un peu un État dans l'État. Ils jouissent de l'avantage d'aller à la messe le dimanche et à la synagogue le samedi. Ils sont dangereux à plus d'un titre, d'abord par leur prosélytisme talmudique auprès des chrétiens, ensuite parce que beaucoup d'entre eux s'adonnent à la magie, parce qu'ils constituent une nation dans la nation, et que leur objectif est de créer en Espagne une nouvelle Jérusalem. Alors les rois catholiques qui menaient alors la guerre de reconquête contre les Maures étaient ainsi trahis sur leurs arrières par un puissant parti antinational. Donc ce double danger, la menace des Maures musulmans à l'extérieur, la menace des conversos à l'intérieur était redoutable, et s'ils n'étaient pas vaincus, la nation espagnole en voie de création, par alliance entre l'Aragon et la Castille en particulier, était destinée à être réduite en servitude et à perdre complètement son identité catholique. Et c'est justement pour parer à ce double danger, et spécialement au danger juif, que la reine Isabelle a demandé au pape l'institution de cette nouvelle inquisition, accordée en 1478, créée en 1480, et confiée au dominicain Torquemada, qui lui a donné sa forme quasi définitive en 1483. Sur cette décision de la reine Isabelle, voilà le point de vue de Joseph de Maistre, sur son tableau. Jamais les grands mots politiques, jamais surtout les attaques violentes portées contre le corps de l'État ne peuvent être prévenues ou repoussées que par des moyens pareillement violents. Dans tous les dangers imaginables, tout se réduit à la formule romaine que les consuls veillent à la sûreté de l'État. Quant aux moyens, le meilleur, tout crime excepté, est celui qui réussit, si vous pensez aux sévérités de Torquemada, sans songer à tout ce qu'elles ont évité, tout ce qu'elles ont prévenu, vous cessez de raisonner. Je crois qu'il y a une question de bon sens. Dans une situation absolument dramatique pour l'Espagne, qui risquait de perdre purement et simplement son identité catholique, il fallait des moyens à la hauteur du péril. Et c'est ce que Isabelle la catholique a compris, c'est ce que le pape a accepté, et c'est ce qui a été mis en place par des gens de très grande classe, comme Torquemada ou le cardinal Ximénez. Établi effectivement en Castille, donc à partir de 1480, la nouvelle Inquisition, elle a été établie d'abord en Castille et puis un peu plus tard en Aragon. Établie en Castille en 1480, la nouvelle Inquisition était un organisme judiciaire permanent dont la tâche était de lutter contre les crimes publics d'apostasie et d'hérésie. Et c'est parce que les anciens tribunaux de l'Inquisition ecclésiastique fonctionnaient très mal ou avaient plus ou moins été tombés en désuétude et avaient perdu complètement leur efficacité que la reine Isabelle a pensé qu'il fallait avoir recours à une nouvelle institution dans laquelle l'accord entre l'Église et l'État aurait été beaucoup plus net. En 1483, le pape Sixte IV nomme le dominicain Thomas de Torquemada, qui est mort, né en 1420, mort en 1498, premier grand inquisiteur d'Espagne. Et c'est lui qui a organisé l'Inquisition. Un chroniqueur contemporain le qualifie de marteau des hérétiques, lumière de l'Espagne, sauveur de sa patrie, honneur de son ordre. Autrement dit, il n'y a pratiquement pas de commune mesure entre l'image qu'on donne à Torquemada et la réalité du personnage. C'est un personnage de très grande classe dont on a fait une espèce d'horrible tortionnaire. Mais la réalité des choses, et on le voit très bien dans le chapitre sur Torquemada, que donne William Thomas Wald, que c'est vraiment une très belle figure et qui a eu le mérite de mettre sur pied cette organisation complexe dans des conditions de très grande efficacité. Retenez simplement ceci, c'est que l'image barbare de ce grand moine qu'ont donné les historiens est une invention pure et simple des ennemis de l'Église. Donc les buts étaient les mêmes que pour l'Inquisition ecclésiastique, il s'agissait de protéger la foi du peuple fidèle, de ramener à la fois apostats et hérétiques, surtout les conversos aux judaïsants, de punir les obstinés, et éventuellement de protéger les vrais convertis du judaïsme, qui étaient souvent terriblement persécutés par ceux qui étaient des maranes. Voilà pour les buts religieux. Et les buts politiques, il fallait éviter les désordres de la justice populaire, qui est toujours excessive, qui a toujours eu des excès. Il fallait surtout empêcher les juifs et les maranes, agissant de concert, de mettre la main sur l'Espagne et d'y installer une nouvelle Jérusalem en faisant en permanence des complots contre l'État, ayant pour but de mettre la main sur l'appareil d'État. Et il fallait évidemment éviter d'être ainsi trahi sur ses arrières pendant la guerre de reconquête contre les musulmans. Donc vous aviez à la fois dans cet organisme où l'Église et l'État marchaient absolument de concert, des buts religieux et des buts politiques, qui étaient parfaitement compatibles les uns avec les autres. Quels étaient les caractères de cette nouvelle Inquisition? Elles avaient en gros les mêmes caractères que l'ancienne Inquisition. Les inquisiteurs n'agissaient qu'aux forêts externes, que des crimes visibles, des crimes publics. Mais ces compétences étaient limitées à l'Espagne et aux possessions espagnoles, qui comportaient à l'époque le nord de l'Italie et qui très rapidement comportaient l'Amérique latine. Et elle était beaucoup plus efficace parce qu'il y avait l'accord de l'État qui était très très peu. L'accord Église-État était vraiment beaucoup mieux réalisé que dans l'Inquisition ecclésiastique. Au sommet, il y avait un conseil qui représentait, un conseil suprême qui représentait à la fois l'Église et l'État espagnol, castillan ou aragonais. L'Inquisition espagnole, avait la. A eu assez vite, non, a eu au bout d'un certain temps, la capacité de juger des personnages que Rome dont Rome se réservait autrefois le jugement, évêques et cardinaux. Ceci depuis 1559. Et il y avait toujours la possibilité d'avoir un recours en cour de Rome, mais ce recours était assez rare. Quelle était la procédure? Là, c'est à peu près la même chose que pour l'Inquisition ecclésiastique, avec peut-être davantage de solennité. L'Inquisition s'installait dans une ville et la cour était ouverte avec une très grande solennité. on proclamait un édit de grâce de 40 jours pour laisser aux coupables le temps de se réconcilier avec l'Église. On lançait ensuite des enquêtes sur les personnes qui étaient non repenties et qui étaient accusées par deux témoins sérieux, enquêtes secrètes, là encore. Usage très limité de la détention préalable. Usage limité de la torture, seulement à l'égard d'accusés dont la culpabilité est presque certaine, et surtout très très limitée. Quelles étaient les peines? C'était les mêmes peines, même échelle de peine que pour l'ancienne Inquisition. Les grands coupables étaient livrés aux bras séculiers, peine de mort, mais il y avait également les prisons, les amendes, les ports d'habits spéciaux, les pèlerinages, les jeûnes et les prières spéciales. En 332 années d'existence, l'Inquisition espagnole a eu en gros 4000 personnes qui ont été livrées aux bras séculiers. Il y en a eu évidemment davantage dans les premières années, puisque là la situation était absolument critique. Mais 4000 personnes sur 330 ans d'existence, ça n'a pas grand-chose à voir avec les massacres que nous avons connus en France, soit pendant la Révolution française, soit pendant la libération des années 45. Quelques personnages de cette Inquisition. Thomas de Torquemada, donc 1420-1498, dominicain, qui a organisé l'Inquisition, qui lui a donné sa structure et qui l'a dirigée pendant 10 ans. Le cardinal Ximénez, franciscain, primat d'Espagne, il a réorganisé l'Inquisition tout à fait au début du XVIe siècle, parce que après la Torquemada, qui était une très forte personnalité, il a eu comme successeur quelqu'un qui avait moins d'autorité que lui, et Ximénez est arrivé quelques années plus tard pour reprendre les choses en main et donner à l'Inquisition une efficacité plus grande. C'est un personnage tout à fait extraordinaire, un franciscain qui n'avait qu'une idée, c'est de mener une vie de contemplation dans un petit couvent perdu au fond de la forêt, qui ne voulait absolument pas se mêler ni de politique ni d'être. Et il a été requis par la reine Isabelle d'abord pour être son confesseur. Elle a ensuite fait nommer primat archevêque de Tolède. Et ensuite, par la force des choses, sans le vouloir, quand la reine Isabelle est morte en 1504, il a été régent d'Espagne entre la mort de... régent de Castille, en tout cas, entre la mort d'Isabelle la catholique et l'arrivée de Charles Quint, son petit-fils, en 1517. Donc pendant 14 ans, il a été le chef pratiquement de l'Empire espagnol, et il a complètement sauvé l'Espagne par son action religieuse, politique et militaire. C'est vraiment une très très belle figure. Mais en ce qui nous concerne pour ce soir, c'est lui qui a réorganisé l'Inquisition au début du XVIe siècle, alors qu'elle était un peu tombée en inefficacité, et lui donner une efficacité nouvelle. Autre personnalité importante, Saint-Pierre Arbues, qui était donc chanoine régulier, qui a été nommé en 1485 inquisiteur pour l'Aragon, et qui a été canonisé par Pie IX en 1867, une très belle figure également. Il a été assassiné dans une église, alors il disait ses prières, dans ses fonctions d'inquisiteur pour l'Aragon. Et quels ont été les résultats obtenus par l'Inquisition espagnole? Il y en a eu beaucoup. D'abord, l'Inquisition a sauvé l'Espagne de la domination des conversos, des maranes juifs. L'Espagne serait devenue une nouvelle Jérusalem, je répète, où les chrétiens auraient eu le sort des Arabes en Israël aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu l'Inquisition pour non seulement éliminer les gens dangereux, mais également éliminer les complots qu'ils passaient leur temps à mettre sur pied. L'Inquisition était d'abord, Inquisition ça veut dire enquête, c'était donc d'abord un service de renseignement avant d'être un tribunal pour juger. Donc l'Inquisition a visiblement sauvé l'Espagne dans cette période très difficile où il y avait à la fois à se battre contre les musulmans et contre les maranes. Un peu plus tard, au début du XVe siècle, grâce à Ximénez en particulier, elle a neutralisé des mouvements illuministes extrêmement dangereux comme les fameux alumbrados, qui auraient failli de compromis complètement la foi catholique s'ils avaient succédé. Et ensuite, à partir des années 1555, l'Inquisition espagnole a détecté la pénétration protestante en Espagne, spécialement dans les milieux universitaires, et l'a bloquée net. Et c'est là qu'on voit le rôle très important de ces services de renseignement et de justice, c'est que une erreur, c'est comme le problème de l'incendie. Quand vous mettez le feu quelque part, si vous intervenez dès le début, il suffit d'un seau d'eau. Si vous intervenez un peu plus tard, il faut une petite lance à incendie. Si vous attendez une heure ou deux, il faut les pompiers, et on casse tout parce que les pompiers, avec l'eau, esquintent la maison où l'incendie a pris. C'est exactement la même chose. C'est une idée que j'ai trouvée chez le père Catry dans son livre sur Mounier. C'est exactement la même chose pour les mouvements d'idées, les erreurs. Si on bloque l'erreur au départ, il y a très peu de casse. Si on attend 10, 20 ou 30 ans, l'erreur occupe le terrain, et à ce moment-là, la situation est fichue. Alors, en France, l'Inquisition, il n'y avait pas l'équivalent en France de l'Inquisition espagnole. Les protestants ont pénétré et ont converti, ont acquis droit de cité en France et ont failli à plusieurs reprises mettre la main complète sur la France. Et s'ils avaient triomphé, s'il n'y avait pas eu les guerres de religion, nous serions tous protestants aujourd'hui. En Espagne, les choses se sont passées très différemment. Pourquoi ? Parce que l'Inquisition, dans des conditions d'ailleurs assez curieuses, a pu détecter le début de la pénétration espagnole qui se faisait en parallèle dans plusieurs universités espagnoles et qui touchait surtout des classes élevées de la société et beaucoup d'ecclésiastiques. Les choses se sont faites de la façon suivante, c'est-à-dire une histoire assez curieuse. Il y avait un horloger, un orfèvre, je crois, et sa femme trouvait qu'il avait une attitude curieuse parce qu'il se couchait très tôt et puis il se levait dans la nuit, il disparaissait complètement et s'est demandé qu'est-ce qui se passe. Alors un jour, elle eut l'idée de le suivre dans la nuit. Elle a vu qu'il arrivait à une maison et que beaucoup de gens entraient dans cette maison en donnant un mot de passe. Alors elle a repéré le mot de passe et elle est entrée pour voir ce qui se passait. Et elle a vu à ce moment-là des personnalités ecclésiastiques de très haut rang diffusant des idées luthériennes ouvertement à des personnalités importantes de la société espagnole. Alors elle s'est confessée, finalement l'information a été donnée à l'Inquisition qui a fait son enquête et qui a immédiatement bloqué dans les différentes villes espagnoles où cette pénétration se faisait à l'échelle universitaire, immédiatement bloquée avant que la chose ne se soit répandue. Il est évident qu'il n'y aurait pas une inquisition, eh bien l'Espagne serait passée au protestantisme comme une partie de la France, et nous serions protestants, parce que l'Espagne passant au protestantisme, les protestants gagnaient en France absolument à coup sûr. Donc retenez ces trois résultats obtenus par l'inquisition espagnole. Sauver l'Espagne de la domination des juifs maranes dans les années 1480-1492. Neutraliser les mouvements illuministes qui risquaient de compromettre complètement la religion des catholiques espagnols, un peu comme pour nous, si vous voulez, à une échelle peut-être moindre, comme pour nous la pénétration des charismatiques au milieu catholique. Mais en ce qui nous concerne pour ce soir, c'est lui qui a réorganisé l'Inquisition au début du XVIe siècle, alors qu'elle était un peu tombée en inefficacité, et lui donner une efficacité nouvelle. Autre personnalité importante, Saint-Pierre Arbues, qui était donc chanoine régulier, qui a été nommé en 1485 inquisiteur pour l'Aragon, et qui a été canonisé par Pie IX en 1867, une très belle figure également. Il a été assassiné dans une église, alors il disait ses prières, dans ses fonctions d'inquisiteur pour l'Aragon. Et quels ont été les résultats obtenus par l'inquisition espagnole ? Il y en a eu beaucoup. D'abord, l'inquisition a sauvé l'Espagne de la domination des conversos, des maranes juifs. L'Espagne serait devenue une nouvelle Jérusalem, je répète, où les chrétiens auraient eu le sort des Arabes en Israël aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu l'inquisition pour non seulement éliminer les gens dangereux, mais également éliminer les complots qu'ils passaient leur temps à mettre sur pied. L'inquisition était d'abord, l'inquisition ça veut dire enquête, c'était donc d'abord un service de renseignement avant d'être un tribunal pour juger. Donc l'inquisition a visiblement sauvé l'Espagne dans cette période très difficile où il y avait à la fois à se battre contre les musulmans et contre les maranes. Un peu plus tard, au début du XVe siècle, grâce à Ximénez en particulier, elle a neutralisé des mouvements illuministes extrêmement dangereux comme les fameux alumbrados qui auraient failli de compromettre complètement la foi catholique s'ils avaient succédé. Et ensuite, à partir des années 1555, l'Inquisition espagnole a détecté la pénétration protestante en Espagne, spécialement dans les milieux universitaires, et l'a bloquée net. Et c'est là qu'on voit le rôle très important de ces services de renseignement et de justice, c'est que une erreur, c'est comme le problème de l'incendie. Quand vous mettez le feu quelque part, si vous intervenez dès le début, il suffit d'un seau d'eau. Si vous intervenez un peu plus tard, il faut une petite lance à incendie. Si vous attendez une heure ou deux, il faut les pompiers, et on casse tout parce que les pompiers avec l'eau esquintent la maison où l'incendie a pris. C'est exactement la même chose, c'est une idée que j'ai trouvée chez le père Catry dans son livre sur Mounier. C'est exactement la même chose pour les mouvements d'idées, les erreurs. Si on bloque l'erreur au départ, il y a très peu de casse. Si on attend 10, 20 ou 30 ans, l'erreur occupe le terrain, et à ce moment-là, la situation est fichue. Alors, en France, l'Inquisition, il n'y avait pas l'équivalent en France de l'Inquisition espagnole. Les protestants ont pénétré et ont converti, ont acquis droit de cité en France et ont failli à plusieurs reprises mettre la main complète sur la France. Et s'ils avaient triomphé, s'il n'y avait pas eu les guerres de religion, nous serions tous protestants aujourd'hui. En Espagne, les choses sont passées très différemment. Pourquoi ? Parce que l'Inquisition, dans des conditions d'ailleurs assez curieuses, a pu détecter le début de la pénétration espagnole qui se faisait en parallèle dans plusieurs universités espagnoles et qui touchait surtout des classes élevées de la société et beaucoup d'ecclésiastiques. Les choses se sont faites de la façon suivante, c'est d'ailleurs une histoire assez curieuse. Il y avait un horloger, un orfèvre, je crois, et sa femme trouvait qu'il avait une attitude curieuse, parce qu'il se couchait très tôt, et puis il se levait dans la nuit, il disparaissait complètement, et c'est demandé qu'est-ce qui se passe. Alors un jour, elle eut l'idée de le suivre. Dans la nuit, elle a vu qu'il arrivait à une maison, et que beaucoup de gens entraient dans cette maison en donnant un mot de passe. Alors elle a repéré le mot de passe, et elle est entrée pour voir ce qui se passait. Et elle a vu à ce moment-là des personnalités ecclésiastiques de très haut rang diffusant des idées luthériennes ouvertement à des personnalités importantes de la société espagnole. Alors elle s'est confessée, finalement l'information a été donnée à l'Inquisition qui a fait son enquête et qui a immédiatement bloqué dans les différentes villes espagnoles où cette pénétration se faisait à l'échelle universitaire, immédiatement bloqué avant que la chose ne se soit répandue. Il est évident qu'il n'y aurait pas une Inquisition, eh bien l'Espagne serait passée au protestantisme comme une partie de la France, et nous serions protestants, parce que l'Espagne passant au protestantisme, les protestants gagnaient en France absolument à coup sûr. Donc retenez ces trois résultats obtenus par l'Inquisition espagnole, sauver l'Espagne de la domination des juifs maranes, dans les années 1480-1492, neutraliser les mouvements illuministes qui risquaient de compromettre complètement la religion des catholiques espagnols, un peu comme pour nous, si vous voulez, à une échelle peut-être moindre, comme pour nous, la pénétration des charismatiques en milieu catholique. C'était bien. Voilà quand même un hommage. Et on constate que, en fait, la doctrine du Christ roi est pratiquement envoyé aux oubliettes, n'est pas nié par la doctrine conciliaire, mais pratiquement rendu impossible à pratiquer et envoyé aux oubliettes. Donc c'est un point intéressant de ce sujet de l'Inquisition, c'est de montrer à quel point cette doctrine conciliaire est catastrophique et à quel point il faut la connaître pour réagir contre elle. Dernier point, si la chose vous intéresse, j'ai apporté la petite brochure à Éphèse intitulée « La liberté religieuse, 30 ans après Vatican II », dans lequel la doctrine conciliaire et la doctrine traditionnelle sont... Il y a un rappel de la doctrine traditionnelle sur les rapports avec les États, un résumé de la doctrine conciliaire et une comparaison entre les deux. Ce sont deux doctrines évidemment, qui s'opposent sur des points fondamentaux. Dernière question que je vais voir, les documents qui sont disponibles. Il y a donc le petit livre de Henri Hello, La vérité sur l'Inquisition, que j'ai oublié d'apporter, mais qui coûte 5 euros et que vous pouvez nous commander chez nous. Et le livre de Ferretti dont je parlais tout à l'heure, aux éditions Saint-Rémy, petite brochure de 70 pages. Et le livre, pour ceux qui lisent l'anglais, le livre de William Thomas Walsh, qu'on trouve facilement aux États-Unis, aux éditions Tan Books, qui est une grande édition catholique américaine. Voilà ce qu'il faut comme documents fondamentaux. Bon, passons aux questions s'il y en a. Oui. Le procès était forcément public. Mais l'enquête était secrète, c'est-à-dire secrète en ce sens qu'on ne révélait pas au public les gens qui apportaient un témoignage. D'accord. Pour éviter que ces gens-là ne soient coupés en rondelles. Quoi.
Et est-ce qu'il y avait un avocat pour le prévenu?
Oui, ça, il pouvait prendre les avocats qu'il voulait. Oui,
et c'était qui?
Je ne sais pas. En tout cas, la procédure judiciaire était très en avance sur ce qui se faisait à l'époque, surtout pour la protection des accusés. Est-ce qu'il y a d'autres questions ?
Entre les questions 1 et les questions 3 que vous venez de publier, il y a une contradiction étonnante dans les réponses du conciliaire. Question 1, du culte public d'une forme, une fausse religion est-il un mal? L'Église conciliaire dit oui. La liberté du culte public des fausses religions doit-elle être considérée comme un droit? Et la doctrine conciliaire dit oui. Alors, l'Église conciliaire protège le mal.
C'est ça. Elle est ce qu'elle est. Elle estime, si vous voulez, cette déclaration conciliaire sur la liberté religieuse porte principalement sur le rôle de l'État. Elle estime que le culte public d'une fausse religion, la propagande d'une fausse religion, c'est un mal. Elle ne dit pas le contraire, mais elle estime que l'État n'a aucun pouvoir, aucune compétence pour lutter contre ce mal. D'où il est nécessaire que l'État laisse libre le culte public des fausses religions. C'est son point de vue. Parce qu'elle part du principe que la vérité se défend par elle-même. Il y a un texte conciliaire, je crois que c'est dans Gaudium et Spes, mais j'ai oublié la formule, dans lequel l'idée que la vérité est assez grande pour se défendre par elle-même. Vous avez le bleu là, je vais retrouver ça là-dedans. Il ne faut pas mettre la force au service de la vérité. Pourquoi ? Parce que si vous mettez la force au service de la vérité, pour défendre la vérité, vous compromettez la vérité et vous lui portez tort. Ça, c'est le point de vue des catholiques libéraux. Voilà, je vais chercher les formulations qui sont assez... Ces points-là que vous soulevez ont été traités dans la petite brochure « Connaissance élémentaire du libéralisme catholique ». Les catholiques libéraux tiennent à un principe qui pourrait être essentiel, faisant de la liberté une sorte d'absolu. Ayant horreur de la contrainte, ils professent qu'il ne faut pas employer la force au service de la vérité. Or, dans la doctrine catholique traditionnelle, la force de l'État doit être mise au service de la vérité catholique. À l'Inquisition espagnole, donnée par un homme qui n'est pas catholique, et qui a quand même un certain poids, étant donné qu'il a une bonne réputation d'historien à Toulouse. Donc, pour terminer, on peut dire ceci, c'est que instituée pour la défense de la religion et de la patrie, l'Inquisition a sauvé de la foi de l'Espagne, elle a épargné à la nation le fléau des guerres civiles, elle a empêché sa ruine complète et elle a en particulier empêché totalement la pénétration protestante en Espagne. Je pense que là, on a des éléments positifs. Donc, il faut dire que, au lieu de redouter ce sujet, l'Inquisition est visiblement un domaine où on peut contre-attaquer. Nous avons, en tant que catholiques, nous devons être fiers de l'Inquisition, aussi bien l'Inquisition espagnole que l'Inquisition ecclésiastique. Nous pouvons être fiers de ces institutions qui ont été très efficaces, qui ont sauvé la foi, qui ont sauvé l'Europe à plusieurs reprises, qui ont été marquées par de nombreux saints canonisés dans l'exercice de leur fonction d'inquisiteur. Il ne faut donc absolument pas admettre la tendance actuelle qui est de dire c'est quelque chose de pas très honnête dans l'histoire de l'Église, dont il faut faire, sur lequel il faut faire repentance. Nous n'avons pas fait repentance en l'Inquisition, nous avons au contraire à connaître l'Inquisition, connaître les personnages magnifiques, canonisés ou non, qui l'ont mis en œuvre, et savoir que c'est grâce à ça que l'Église, que la chrétienté a pu se maintenir vaille que vaille au XVe et au XVIe siècle. Et c'est quand même quelque chose de très très important. Et rappelez-vous, je pense que l'un des principaux arguments, c'est de dire l'Inquisition ayant été marquée par des quantités de saints, le bienheureux Guillaume Arnaud et ses 9 compagnons, saint martyr, saint Pierre de Vérone, martyr, saint Jean de Capistran, saint Pierre Abbès, martyr, dans l'exercice de ses fonctions, saint Pie V, ça fait quand même une collection de saints de très grande classe qui montre qu'il s'agissait là d'une institution non seulement légitime, non seulement efficace, mais parfaitement catholique. Nous allons reprendre la deuxième partie. Avant de passer aux questions, je voudrais quand même préciser une chose. C'est que ce que je disais tout à l'heure, l'Inquisition serait inconcevable dans un monde qui adopterait la doctrine conciliaire sur la liberté religieuse. J'ai mis au tableau un schéma qui indique la différence entre la doctrine traditionnelle et la doctrine conciliaire sur la liberté religieuse, sous forme de questions. Le culte public d'une fausse religion est-il un mal ? La doctrine traditionnelle dit oui, la doctrine conciliaire dit oui. C'est pas là-dessus qu'il y a une différence entre ces deux doctrines. L'État est-il compétent pour réprimer ce mal ? Autrement dit, en interdisant, en bloquant autant que possible le culte public d'une fausse religion. La doctrine traditionnelle dit oui, c'est un devoir de l'État. La doctrine conciliaire dit non, sauf si ce culte public trouble l'ordre public juste. Troisième question, la liberté du culte public des fausses religions doit-il être considérée comme un droit ? La doctrine traditionnelle dit non, et la doctrine conciliaire dit oui. Quatrième question, ce droit doit-il être inscrit dans la loi ? La doctrine traditionnelle dit non, puisque ce droit n'existe pas. Il n'y a pas de raison de l'inscrire dans la loi. Mais l'État, s'il concède une tolérance, peut reconnaître par une loi le droit civil à en bénéficier. La doctrine conciliaire dit que ce droit doit être inscrit dans la loi. L'État peut-il légitimement établir des discriminations entre citoyens pour motifs religieux ? La doctrine traditionnelle dit oui, la doctrine conciliaire dit non. Et en disant qu'il ne faut pas établir de discrimination entre citoyens pour motifs religieux, la doctrine conciliaire condamne totalement l'ancien régime français, qui exigeait que le roi soit catholique. Rappelez-vous l'affaire d'Henri IV. Henri IV n'a été accepté comme roi qu'à partir du moment où il s'est converti au catholicisme. Donc c'est le point le plus grave, peut-être le plus grave pratiquement de la doctrine conciliaire, c'est de dire on ne peut pas, l'État ne doit pas établir de discrimination entre citoyens pour motifs religieux. Parce que ça va extrêmement loin comme prise de position. Dernier point, quels sont les devoirs de l'État envers la vraie religion ? La doctrine traditionnelle dit que l'État doit un culte public à notre Seigneur, que la législation de l'État doit être rendue conforme aux exigences du catholicisme, à la loi catholique, et que le catholicisme doit être protégé contre les fausses propagandes, en particulier contre la propagande des hérétiques, ce qui justifie d'ailleurs l'Inquisition. Alors que la doctrine conciliaire vous dit que les devoirs de l'État ne sont pas réaffirmés ni niés, mais leur exercice est rendu pratiquement impossible par la règle de non-discrimination pour motifs religieux. Selon eux, il y aurait incompatibilité entre coercition et vérité. Une vérité défendue par la force de l'État, défendue par la force des institutions, serait par la même contaminée et dégradée. C'est la théorie des libéraux. Selon eux, l'homme se porterait naturellement vers la vérité. Il ne faudrait pas gêner sa démarche en imposant à la vérité des protections dont elle n'a que faire. Alors là, c'est complètement faux, parce qu'on sait que du fait du péché originel, nous avons tous une certaine propension à glisser dans des erreurs qui nous sont favorables, qui, sur le plan moral, qui donnent des facilités, du laxisme, ce qu'on voudra, à une propension à l'erreur qui est assez propre à l'esprit humain contaminé par le péché originel.
Ça pourrait être de Rousseau, ça.
Pardon ?
Ça pourrait être de Rousseau.
Ah, ça pourrait être de Rousseau, oui. Voilà ce que disait, par exemple, et c'est une vieille erreur qu'on retrouve dans le Concile, mais qu'on retrouvait déjà bien avant, un député de droite, Monsieur Sainte-Marie, dans une intervention à la Chambre en 1828. 1828 disait ceci. Je m'applaudis de me rencontrer ici avec M. Benjamin Constant, qui était un homme de gauche. Comme lui, je ne réclame que la liberté pour tous, pour les uns comme pour les autres. Comme lui, je pense que la vérité est assez forte pour n'avoir besoin que de la neutralité du pouvoir. Voici également, alors un peu plus tard, un théologien dominicain qui s'appelle le Père Momus. Et voilà ce qu'il disait en conclusion d'un livre sur les catholiques et la liberté politique. Les regards des catholiques d'Europe se tournent avec admiration vers l'Église des États-Unis pour apprendre d'elle ce que peut la liberté au service de la plus grande et de la plus noble cause. Nous étions portés à croire que l'Église serait réduite à l'impuissance si elle n'était pas soutenue par le glaive de la puissance civile. L'expérience des catholiques américains nous enseigne que la liberté lui suffit et que les institutions politiques libres sont infiniment plus profitables à son épanouissement que la protection souvent compromettante du pouvoir. Il ne faut pas de force de l'État au service de la... Derrière ça, il y a tous les mécanismes qui a été condamné par le pape Léon XIII. En tout cas, c'est cette idée fondamentale du libéralisme catholique qui a été reprise dans la doctrine conciliaire. Il ne faut pas que la force soit mise au service de la vérité. Et c'est contraire au bon sens le plus élémentaire.
Évidemment, on est totalement dépassé par des affirmations comme ça.
C'est pour ça que c'est intéressant d'étudier le libéralisme catholique, parce que nous sommes plongés dans un climat libéral, libéral-catholique, et c'est à la fois intéressant d'analyser sur le plan doctrinal, sur le plan intellectuel des idées, et également sur le plan psychologique. Il y a une psychologie du catholique libéral. Parce que quand on veut définir le catholicisme libéral, je cherche la définition. Le libéralisme catholique est un tour d'esprit général qu'on peut décomposer en deux éléments. Une tendance à exalter la liberté comme valeur première, comme valeur absolue, et une tendance à concilier l'Église et le monde tel qu'il est devenu depuis 1789, une tendance à réconcilier la France de Jeanne d'Arc et la France révolutionnaire. Vous avez sur ce sujet des citations de Maritain qui sont absolument éclairantes et, j'allais dire, stupéfiantes. Alors les conclusions, c'est qu'il ne faut pas mettre la force de l'État au service de la vérité religieuse, et ça conduit très rapidement à réduire l'Église au droit commun et à séparer l'Église de l'État. C'est abouti directement à cette fameuse loi de séparation de 1905 qui était tellement, dont on va tellement parler cette année.
Mais ça pose quand même des problèmes au niveau de la laïcité. C'est vrai qu'on parle de saine laïcité de l'État. Et dans la brochure sur la laïcité, vous parlez du problème de Saint-Louis qui avait refusé de prêter son bras pour mettre à exécution des excommunications prononcées par l'Église. Est-ce que c'est pas un peu la même chose ?
Attendez, la saine laïcité de l'État, c'est une expression. C'est très embêtant d'utiliser le mot laïcité dans deux sens contradictoires. La saine laïcité de l'État n'a été utilisée que par Pie XII qu'une seule fois, tout à fait à la fin de sa vie, pour désigner la juste distinction entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel, entre l'Église et l'État, qui sont distinctes mais fondamentalement accordées. Donc le mot laïcité désigné dans ce sens-là, c'est l'accord entre l'Église et l'État, chacun étant maître dans son domaine, mais l'État étant soumis à l'Église en matière de morale et de doctrine. La laïcité au sens classique, c'est exactement l'inverse. Alors quand vous utilisez le mot laïcité pour désigner deux choses absolument opposées l'une à l'autre, ça fait le cirque intégral. Et je pense qu'on peut regretter, tout en rendant hommage à Pie XII, on peut regretter que Pie XII ait utilisé cette expression de saine laïcité qu'il a inventée, parce que ça ne fait que troubler les esprits. Enfin, nous, dans l'étude, on va publier dans 15 jours une petite brochure intitulée « Connaissance élémentaire de la laïcité », on montre bien qu'il y a intérêt à ne pas utiliser cette expression « saine laïcité de l'État », parce que sans ça, les gens n'y comprennent plus rien. Alors, la distinction des pouvoirs, le pouvoir d'État le pouvoir de l'État et le pouvoir de l'Église, le pouvoir du roi Saint-Louis et puis le pouvoir du pape à l'époque, il est bien évident qu'il y a des cas où l'État peut intervenir au service de l'Église d'une certaine façon. Il y a des interventions qu'on lui demande qui peuvent être non justifiées. Quand certains évêques de France demandaient à Saint-Louis de faire intervenir le bras séculier pour coincer des gens qui avaient été excommuniés, Saint-Louis était en droit de demander est-ce que l'excommunication est valide. Il avait les services de renseignement, il peut avoir de mauvais évêques qui font des excommunications qui ne tiennent pas debout. Dans ce cas-là, Saint-Louis avait parfaitement le droit de ne pas marcher. Mais ça ne met pas en cause la distinction des pouvoirs et l'accord fondamental entre l'Église et l'État, l'État étant soumis à l'Église en matière de doctrine et de morale, et devant aider l'Église par sa puissance temporelle, aider autant qu'eux. Mais je pense qu'éviter cette expression de saine laïcité de l'État, sinon on n'y comprend plus rien. Parce que utiliser le même mot pour désigner deux choses contradictoires, c'est le cirque.
On a la même difficulté avec le mot liberté.
Non, la liberté, ça peut.
C'est selon que certains l'utilisent.
Non, la liberté, on peut en faire un absolu, et dans ce cas-là, c'est désordonné. Mais enfin, le mot liberté, c'est quand même l'absence de lien, c'est l'absence de contrainte.
Donc ça. C'est l'anarchie, quoi. C'est l'essence de l'anarchie.
Mais ça, c'est la liberté qui n'est pas ordonnée, si vous voulez.
Oui, c'est ça.
Mais il me semble que l'argument le plus fort, c'est celui des saints qui ont été canonisés alors qu'ils étaient inquisiteurs. Pour des catholiques, du moins des catholiques qui ont gardé la foi, enfin, qui croient encore à l'Église, c'est quand même un argument puissant. Surtout quand on voit là-dedans des gens qui sont quand même des, j'allais dire un peu grossièrement, des fortes pointures, si vous voulez. Des gens comme Saint Pie V, des gens comme Saint Jean de Capistran, des gens comme Saint Pierre de Vérone, c'est quand même des gens hors série, quoi. Ben, si vous voulez, pour des non-catholiques, à partir du moment où vous partez sur une propagande historique qui est fausse, totalement fausse, c'est la légende noire, ça a été inventé par les historiens protestants depuis le XVIe siècle, ces historiens protestants qui ont été copiés par les historiens catholiques français et qui n'avaient qu'un but, c'est de casser l'Église par tous les moyens possibles, ils ont inventé les choses fausses. Alors, il faut d'abord se mettre d'accord sur les faits, quoi. C'est là, je pense que la citation que j'ai donnée, qui figure à tout à fait à la fin j'ai encore une brochure si quelqu'un la veut, la citation de Benassar, qui est mise à la fin de cette brochure. Bartholomé Benassar, spécialiste de l'inquisition espagnole, portant le jugement que j'ai cité, c'est quand même un argument utilisable. Ça montre que le problème n'est pas là où on le trouve. On peut essayer de discuter, si on a le temps, sur les procédures judiciaires en vigueur au Moyen-Âge et quelles ont été les procédures nouvelles qu'a introduit l'inquisition. L'enquête remplaçant l'ordalie, le jury est établi justement pour que ce ne soit pas uniquement le juge, mais qu'il y ait tout un ensemble de personnalités honorables qui pèsent la culpabilité d'une personne. Le souci de convertir avant de punir. Le souci de punir durement uniquement ceux qui étaient relapses, ceux qui revenaient plusieurs fois sur la même faute. Il y a là quand même des éléments de civilisation qu'a introduite l'Inquisition. Et si la justice a fait des progrès considérables en France à cette époque-là, c'est grâce à l'Inquisition. L'Inquisition est un élément de civilisation et pas un élément de barbarie, quoi. Alors, est-ce que c'est facile à expliquer ? Il faut du temps, évidemment. Mais je pense que le sujet que vous soulevez est difficile. Pourquoi ? Parce que les gens vivent sur un potentiel d'idées fausses, de faits inexistants, de légendes créées par des protestants, et il faudrait purifier la mémoire, c'est le cas de le dire, j'aime pas l'expression, mais purifier la mémoire de ces idées fausses avant d'avoir un jugement objectif sur l'Inquisition.
Surtout quand un pape vient s'excuser de toutes les erreurs qu'a fait l'Église au long des temps.
Oui, c'est ça qui est terrible. Enfin, je pense que le jugement de Voltaire ou le jugement de Benassar, ce sont deux personnalités qui ne sont catholiques ni l'une ni l'autre, peut apporter un certain poids dans une discussion.